Vous écoutez, on lit pour vous.
La maladie cœliaque, il faut en jaser. Un texte de Jacqueline Simoneau, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge. Manger sans gluten est une mode pour certaines personnes, mais pour les individus touchés par la maladie cœliaque, c'est primordial. Pourtant, près de 87 % des gens atteints ignorent en souffrir. Comment la reconnaître? Quels examens faire? Comment la traiter? On vous donne les réponses. Lorsque son garçon a reçu un diagnostic de maladie cœliaque à l'âge de 9 ans, Edith Lalanne, directrice générale de Cœliaque Québec, a fait le test de dépistage. Résultat, elle était porteuse du gène. Heureusement, je n'ai pas développé la maladie, dit-elle, mais mon père présentait plusieurs symptômes. Je lui ai donc suggéré de passer le test. Il était positif. Il avait 70 ans. La maladie cœliaque affecte les gens de toutes les tranches d'âge, faisant ainsi de nombreuses victimes. On estime qu'environ 85 000 Québécois seraient touchés, soit une personne sur 10. Malheureusement, la maladie progresse. Comment expliquer ce phénomène? On connaît mieux la maladie et on la dépiste plus facilement, mais il y a plus. On ne comprend pas encore tout le processus physiopathologique de la maladie, avoue le docteur Michael Ben-Soussan, gastro-entérologue à l'hôpital Charles-Lemoyne. Toutefois, on sait que les céréales, principalement le blé, ont subi des transformations au cours des 50 ou 60 dernières années. Les nouvelles variétés pourraient avoir modifié la structure du gluten, le rendant potentiellement plus immunogène, ce qui expliquerait en partie l'augmentation des cas. C'est la faute au gluten. La maladie cœliaque est une affection auto-immune chronique caractérisée par une réaction anormale du système immunitaire au gluten. Au contact de cette protéine, le système immunitaire provoque une inflammation et une dégradation de la muqueuse de l'intestin grêle, entraînant l'atrophie des villosités intestinales, structures en forme de vagues responsables de l'absorption des nutriments, des vitamines et des minéraux. Il en résulte des carences nutritionnelles pouvant affecter tout l'organisme. Cœliaque ou intolérant au gluten? On confond souvent ces affections alors qu'elles sont pourtant bien différentes. Les gens avec une intolérance au gluten, dite non cœliaque, éprouvent des malaises digestifs, maux de ventre, ballonnements, diarrhées, lors de la consommation de gluten, mais le test sanguin est négatif et la biopsie ne révèle pas de dommages à l'intestin, explique le docteur Ben-Soussan. Elle crée des inconforts, mais elle n'est pas dangereuse. En revanche, la maladie cœliaque endommage l'intestin et peut engendrer de graves complications, parfois mortelles. Gène sous la loupe. La maladie cœliaque est héréditaire. Elle se développe chez les personnes génétiquement prédisposées, mais attention, ce n'est pas parce qu'une personne est porteuse du gène qu'elle développera automatiquement la maladie. Cœliaque Québec estime qu'environ 30 % de la population au Québec sont porteurs du gène HLA-DQ2 ou DQ8, mais que seulement 1 % va développer la maladie. Les gènes n'expliquent pas tout. Bien que la prédisposition génétique soit nécessaire, d'autres facteurs comme un virus ou des facteurs environnementaux peuvent aussi contribuer au déclenchement de la maladie, soutient Edith Lalanne. Il faut également savoir que, lorsqu'une personne est atteinte de la maladie cœliaque, le risque pour les autres membres de sa famille au premier degré, parents, enfants, fratrie, d'en souffrir, est estimé à 10 %. On passe le test. La maladie cœliaque se dépiste à l'aide d'une simple analyse sanguine. Seule consigne, il faut éviter de suivre un régime sans gluten avant de la passer pour ne pas fausser le résultat. Un test positif sera suivi d'une gastroscopie et d'une biopsie pour confirmer le diagnostic. Facile. Pourtant, il se passe parfois des années, en moyenne 7 ans, entre l'apparition des symptômes et l'obtention d'un diagnostic. Dans certains cas, il peut même s'écouler jusqu'à 20 ou 30 ans avant qu'un médecin pense à prescrire la fameuse prise de sang. Des signes typiques d'autres maladies. Le diagnostic est souvent difficile à établir en raison de la grande diversité des symptômes et du fait qu'ils peuvent s'apparenter à d'autres pathologies comme le syndrome de l'intestin irritable, admet le docteur Bensoussan. On compare d'ailleurs la maladie cœliaque à un caméléon, puisqu'il existe plus de 200 signes et symptômes possibles. Les manifestations classiques sont les malaises digestifs, douleurs abdominales, ballonnements, diarrhée ou constipation, l'anémie et la perte de poids, déclare Edith Lalanne. Mais d'autres signes plus atypiques peuvent être reliés à la maladie tels que la fatigue, l'ostéoporose, les douleurs ostéo-articulaires, les migraines, les éruptions cutanées et la dépression. Et parfois, il n'y a aucun symptôme. La maladie est alors souvent découverte après qu'un membre de la famille a été diagnostiqué. Gare au régime yo-yo. Hélas, la maladie cœliaque ne se guérit pas. La seule façon d'éliminer les symptômes, de guérir les tissus endommagés de l'intestin et de prévenir d'éventuelles complications est d'adopter un régime sans gluten. À vie. Exit le blé, le seigle et l'orge. Et pas question de tricher de temps en temps, ni de laisser tomber sa diète sous prétexte qu'on ne ressent pas de malaise ou peu. Car une maladie non traitée ou mal contrôlée n'est pas sans conséquences. En l'absence de régime sans gluten strict, la personne cœliaque risque de voir ses symptômes s'aggraver et de développer plusieurs complications à long terme, telles une ostéoporose, un problème thyroïdien, une malnutrition, une anémie sévère, des calculs rénaux, d'autres maladies auto-immunes, voire un cancer, confie le docteur Bensoussan. Raison de plus de prendre son régime sans gluten au sérieux. Vous écoutez « La maladie cœliaque, il faut en jaser », un texte de Jacqueline Simoneau, paru en mai 2023 dans le magazine « Bel âge ». Un grand bouleversement. Chasser le gluten de son assiette n'est pas une mince affaire. Il se faufile presque partout, non seulement dans les pâtes, le pain, le yogourt, la bière ou les épices, mais aussi dans la majorité des aliments transformés. D'où l'importance de vérifier attentivement la liste des ingrédients. La bonne nouvelle, de plus en plus de boutiques spécialisées et d'épiceries offrent des produits sans gluten et certains restaurants proposent des plats sans gluten. Le problème, c'est souvent le coût. Selon une étude menée par Cœliac Québec, 27% des personnes touchées par la maladie doivent débourser 2 600 $ de plus par année en épicerie. Reste que changer ses habitudes alimentaires n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. L'aide d'une diététiste peut s'avérer utile. Devenir membre d'une association également. Cela permet de briser l'isolement et d'obtenir du soutien et des conseils alimentaires. Des proches aidants. Jocelyne Poirier est la grand-maman d'une ado de 14 ans atteinte de la maladie cœliaque. À l'annonce du diagnostic, elle s'est immédiatement impliquée. Il n'était pas question que ma petite fille mange chez moi et qu'elle soit à part des autres, raconte-t-elle. Mon rôle de grand-parent est de la soutenir, d'être attentive à ses besoins et de la rendre heureuse malgré les contraintes. Alors, j'ai fait des lectures sur la maladie. Je suis devenu membre de Cœliac Québec et j'ai adapté ma cuisine. J'ai 2 garde-manger, dont un avec des aliments sans gluten. J'ai même acheté des poêles, des chaudrons et des accessoires réservés uniquement à la cuisson des plats sans gluten pour éviter la contamination croisée. J'ai aussi ajusté mes recettes. Quand je reçois, tout le monde mange sans gluten et personne ne se plaint. Je me plais à dire que, chez moi, c'est son deuxième filet de sécurité. Pour les gens cœliaques, la situation se complique surtout à l'extérieur de la maison ou en voyage, mais pas question pour autant de renoncer à une vie sociale. Il existe des trucs. Avant de partir en voyage, on s'informe auprès de son agent de voyage et on regarde les sites web des endroits à visiter pour dénicher des épiceries et restos sans gluten, suggère Edith Lalanne. Chez des amis, on peut apporter son repas ou vérifier les ingrédients des plats servis. On privilégie les restos qui offrent des plats sans gluten tout en s'informant sur la contamination croisée. Sinon, on demande la composition des mets. Enfin, lors des sorties, on apporte toujours une collation de dépannage au cas où. En résumé, il faut être vigilant, prévoyant et flexible. Vers l'avenir. Actuellement, il n'existe aucun traitement médicamenteux pour traiter cette maladie, mais selon Cœliac Québec, les chercheurs continuent d'explorer différentes avenues thérapeutiques afin de prévenir le développement de la maladie et d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes en diminuant les symptômes persistants ou en offrant une protection contre l'ingestion de gluten par inadvertance. En ce moment, les travaux les plus prometteurs implique la création d'un vaccin permettant non pas de réintroduire le gluten comme s'il n'y avait pas de maladie, mais de faire quelques écarts, d'être plus souple avec sa diète sans gluten, rapporte le docteur Ben Soussan. Évidemment, il y a loin de la coupe aux lèvres, mais l'avenir s'annonce prometteur. C'était la maladie cœliaque, il faut en jaser, un texte de Jacqueline Simoneau paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge.
Cultiver l'avenir, un texte de Gabrielle Lisa Collard paru le 24 août 2023 dans le magazine Nouveau Projet 24. L'équipe maraîchère de la ferme aux petits oignons revalorise la place de l'agriculture dans la communauté. Située dans la vallée de la rivière du Diable à Mont-Tremblant, la ferme aux petits oignons propose différentes formules d'abonnement à des paniers hebdomadaires de fleurs, de légumes et de fruits certifiés Écocert Canada. Avec ses 4 points de chute répartis entre Saint-Sauveur et Mont-Tremblant, la coopérative nourrit chaque année près de 1000 familles des Laurentides de la fin mai à la fin octobre. Agronome et directrice générale de la ferme, Véronique Bouchard n'était nullement prédestinée à l'agriculture. Originaire de la banlieue du Québec et fille de fonctionnaire, celle qui se décrit à la blague comme une agronome de l'asphalte, est tombée amoureuse de la terre durant un stage agricole en France. Ce mode de vie, se souvient-elle, a été une révélation pour moi. Les légumes, les vaches poilues, les ventes directes sur les marchés. Je suis quelqu'un qui a un grand besoin d'être dans l'action et l'agriculture me permet de canaliser mon indignation face aux iniquités sociales et aux enjeux environnementaux de manière très concrète. À l'hiver 2011, après quelques années à se faire la main sur une ferme thérapeutique pour personnes ayant une déficience intellectuelle et qui était implantée sur des terres louées, Véronique et son partenaire de l'époque font l'acquisition d'un premier lopin de 4 hectares à Mont-Tremblant, pour lequel il et elle se présentent devant la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Après avoir vu son dossier refusé une première fois, la CPTAQ, étant généralement défavorable au morcellement des terres agricoles, le couple obtient gain de cause, créant par le fait même un précédent juridique qui a pavé la voie à l'acquisition de superficies agricoles par d'autres fermes de plus petite envergure. Les premières années, aussi gratifiantes que difficiles, se sont déroulées sous le signe du travail acharné et de ce que la maraîchère décrit comme une totale absence de frontières entre son métier et sa vie personnelle. Quand on a l'espace, on peut faire de l'agriculture avec très peu d'équipement, dit-elle. Mais c'est énormément de jus de bras et la conciliation travail-famille n'existe tout simplement pas. Démarrer une ferme, dans mon cas, a signifié travailler la veille et le lendemain de mes accouchements. Nouveau départ. En 2019, à la suite de sa séparation, Véronique rachète les parts de son ancien conjoint avec une idée en tête. Faire de la ferme aux petits oignons une coopérative de solidarité. Loin d'être une simple structure juridique, la coopérative représentait pour elle un tout nouveau paradigme idéologique et logistique basé sur la confiance, l'entraide et la poursuite d'une mission commune. En novembre dernier, après avoir exploré différentes méthodes de gestion alternative, Véronique et son équipe de 15 travailleurs-travailleuses confirment leur choix et, en février, ils et elles procèdent au grand changement. Le modèle coopératif, dit Véronique, nous sort du paradigme employeur-employé basé sur la méfiance et le contrôle. Chacun d'entre nous contribue à sa façon, et on est tous là parce qu'on veut y être. Ce qui nous rassemble, c'est la mission. Prendre soin de la terre, la préserver pour les générations futures et contribuer au bien-être de la communauté, des membres et de l'équipe de travail. Plutôt que de se trouver dans un rapport de force entre le producteur et le consommateur, on nourrit un rapport collectif centré sur le désir commun de protéger notre garde-manger. L'agronome ne mâche pas ses mots. L'agriculture québécoise vit une crise sans précédent qui menace nos réserves de nourriture et qui nous forcera tôt ou tard à changer de paradigme. Travaillant dans une industrie où les frais d'exploitation sont particulièrement élevés, les producteurs et productrices agricoles d'ici sont incapables d'atteindre leurs objectifs économiques et ils voient leur santé financière et mentale se détériorer année après année. Les fermes qui atteignent leurs objectifs financiers se font reprocher leurs pratiques, et celles qui priorisent les pratiques éthiques se font reprocher leur prix, lance-t-elle. Personne n'y arrive. Personne n'est heureux. Sur le papier, la ferme aux petits oignons répond à certaines des plus grandes inquiétudes de notre époque en proposant un modèle indéniablement inspirant. Son succès, toutefois, dépendra directement de l'implication des résidents, des résidentes, des municipalités et des organismes qu'elle espère bientôt compter parmi ses membres. En phase avec les valeurs d'un nombre grandissant de consommateurs et consommatrices qui, à défaut d'exploiter leur propre ferme d'autosuffisance, achètent des aliments bio, éthiques et locaux, la coopérative offre une occasion d'investissement à haut rendement social et environnemental. L'adhésion, qui coûte 1 000 $, permet aux membres de contribuer à la pérennité d'un projet correspondant à leurs valeurs, de s'impliquer activement dans les démarches décisionnelles démocratiques de la ferme et de développer une plus grande autonomie alimentaire pour leur famille et leur communauté. Au Canada, conclut Véronique Bouchard, 58% des aliments sont gaspillés. On est très déconnecté de notre terre et de ce qui pousse chez nous. Pendant que tout le monde capotait sur le prix de la laitue à 9 $ la pomme, personne ne parlait du chou, bien moins cher, largement disponible et tellement nutritif. L'avenir de l'agriculture, pour elle, se trouve dans la création de systèmes agricoles qui nous permettront de reprendre un certain pouvoir sur notre alimentation, de nous défaire de l'emprise des banques, de la technologie et des méga-corporations qui la détiennent, et de plonger les deux mains dans la terre avec respect et intention. En plus, c'est prouvé, les coops ont un taux de survie 2,5 fois plus élevé que les entreprises traditionnelles du monde agricole, à qui on octroie pourtant la majeure partie du financement. Au-delà du profit, philosophe Véronique, il y a la connexion, l'innovation, la générosité et le bonheur d'exercer son métier. Ça aussi, ça compte. Quand on se projette dans l'avenir, est-ce qu'on a envie qu'il ressemble à Wall-E ou bien à la Belle Verte? D'autres initiatives locales pour la transition. J'arrive Laurentide. J'arrive est une application de covoiturage desservant le territoire des Laurentides depuis 2022. Répondant à un besoin criant dans la région où plusieurs automobilistes se déplacent sur de longues distances quotidiennement pour aller au travail, l'application soutient l'adoption de comportements responsables et la réduction des GES tout en apportant un complément à l'offre plutôt limitée de transport collectif. Les Serres de Clara. Fondé en 1991, ce projet de jardinage collectif a pour mission d'assurer l'accès à des fruits et des légumes frais aux familles de Saint-Jérôme aux prises avec l'insécurité alimentaire. Les participants et participantes obtiennent des aliments en échange de leur implication au jardin. Les Serres proposent également des activités de formation, notamment d'éducation culinaire, en plus de soutenir les initiatives locales comme la création de cuisines collectives et d'offrir une aide alimentaire de dernier recours. Le marché d'été de Val-David. Chaque année, depuis l'an 2000, de la fin mai à la fin octobre, plus de 5000 personnes se rendent tous les samedis matins dans le village pittoresque de Val-David pour y vivre l'expérience gastronomique de son célèbre marché d'été. Réunissant une quarantaine de producteurs et productrices de viande et volailles, de fruits et légumes, et d'une multitude de produits du terroir, le marché a reçu en 2022 l'accréditation « Marché de la terre » remise par l'organisme Slow Food. C'est l'un des marchés publics les plus importants au Québec et il a pour mission de mettre en valeur l'économie locale et les aliments de saison, offerts à un juste prix et issus d'un processus respectueux de l'environnement et des travailleurs et travailleuses. C'était « Cultiver l'avenir », un texte de Gabrielle Lisa Collard, paru le 24 août 2023 dans le magazine Nouveau Projet 24.
Cinq romans québécois qui crèvent l'écran. Un texte de Karine Wilder, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge. Voici quelques romans d'ici qui ont été ou qui seront portés très bientôt à l'écran. Lumière. Le plongeur. On ne peut pas ne pas parler de ce livre, parce que sa version cinématographique a séduit pas mal tout le monde depuis sa sortie en février dernier. On y croise un jeune joueur compulsif tellement endetté que pour se refaire, il va accepter de devenir plongeur dans un resto chic de Montréal. Si on ne l'a pas encore lu, voilà un bon livre dans lequel se plonger. Stéphane Larue, édition Le Cartanier, 568 pages, $20.95 ou $18.99 en version numérique. La cordonnière. près de 25 ans après la publication de ce roman, on peut maintenant suivre au grand écran l'histoire de Victoire Dussault, la toute première femme d'ici à avoir exercé le métier de cordonnière. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'avait vraiment pas les deux pieds dans la même bottine. En créant sa propre fabrique de chaussures, elle a conduit la famille Dufresne sur le chemin de la fortune. Pauline Gilles, VLB éditeur, 344 pages, $30.95 ou $22.99 en version numérique. Haute démolition. Le métier de comique n'est pas toujours aussi amusant que ça. À peine sa carrière lancée, l'humoriste Raph Massy en fera d'ailleurs les frais puisque sa vie prendra vite une sacrée drôle de tournure. Pour rire jaune avec lui, on a maintenant le choix, le livre ou la série télé, à Série Plus, qui en a été tirée. Jean-Philippe Barry-Guerrard, édition Tamer, 362 pages, $28 ou $14.99 en version numérique. Cœur de slush. Techniquement, il s'agit là d'un roman pour ados, mais entre nous, depuis sa publication en 2016, il a aussi fait fondre un grand nombre de lecteurs adultes. Alors, place à Billy, qui va y vivre ses premiers émois amoureux. Mais, manque de chance, elle ne va pas tomber sur le plus simple des garçons. Au cinéma dès le 16 juin. Sarah Maud Beauchesne, édition Urtubise, réédition de luxe avec photos du tournage et extrait du scénario, 264 pages, $27.95. Rue. C'est avec ce livre qu'en 2009, Kim Thuy a fait son entrée sur la scène littéraire. En une succession de très courts chapitres, il relate l'arrivée au Québec d'une timide réfugiée vietnamienne dont la famille a fui le régime communiste. Maintes fois récompensé, un récit à la fois beau et touchant, qu'on pourra aussi découvrir sur grand écran cet automne. Kim Thuy, édition Libre Expression, 152 pages, $24.95 ou $14.99 en version numérique. C'était « Cinq romans québécois qui crèvent l'écran », un texte de Karine Wilder, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge.